Merci de nous recevoir dans la province de la Tchopo où les pères éducateurs du projet Elikia FARDC contre le VIH-Sida à Kisangani sont mécontents. Ils accusent l'ONG Association de Santé Familiale ASF de détournement de 4 mois de leur motivation ainsi que des 3 mois des frais scolaires de leurs enfants vivant ou affectés par le VIH-Sida. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida appelle les pères éducateurs au calme. Le problème est en voie d'être solutionné, affirme-t-on. Anselme Masson nous en parle dans ce dossier.
C'est depuis janvier dernier, déclarent les pères éducateurs du projet Elikia-FRDC, que le programme ne fonctionne plus normalement. La sensibilisation des personnes vivant avec le VIH dans les camps ou dans les domiciles des militaires ne se fait plus et même les frais scolaires des enfants vivants ou affectés du VIH n'arrivent presque plus. Un père éducateur qui a requis l'anonymat explique.
Nous travaillons sur la sensibilisation des femmes et enfants des militaires souffrant du VIH-Sida pour qu'ils sortent de leur ignorance et clandestinité pour suivre le traitement. Déjà 9 ans depuis que nous faisons ce travail. Pour nous, pères éducateurs, nous bénéficions du remboursement de nos transports pour ce travail. Voilà aujourd'hui 4 mois, nous sommes impayés. L'argent, selon l'information reçue, est déjà arrivé et se trouverait entre les mains du docteur Papi et Madame Judith, les deux responsables de l'association de santé familiale à Kinshasa. Ils ne veulent pas nous rembourser nos 4 mois. En plus, nous sommes actuellement menacés par les responsables des écoles où étudient nos enfants vivants ou affectés du VIH. Ces responsables réclament 3 mois de frais scolaires que nous leur devons. Les enfants n'ont pas été proclamés à la fin de cette année scolaire. Vous nous avez trompés avec des codes falsifiés. Arrivé à l'agence Soficom, cette dernière ne reconnaît pas ces codes, disent-ils. Et le bulletin vous sera livré après le paiement de toutes ces primes non encore versées.
Tous nos efforts de joindre les responsables de l'ASF à Kinshasa se sont avérés vains. Mais pour le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS en sigle, il existe un problème de rupture momentanée de financement pour ce projet Elikia-FRDC. Le département de la défense des États-Unis d'Amérique, DOD en sigle, qui finance ce projet, a retiré sa confiance à l'ONG American Population Services International, PC en sigle, qui exécutait ce projet à travers l'ASF en RD Congo. Les pères éducateurs doivent avoir un peu de patience en attendant que DOD trouve un autre partenaire. Rifin Bokelo, secrétaire exécutif de PNMLS Tchopo.
Le département d'État, le DOD, devrait chercher maintenant une autre structure pour continuer à financer les PALS. Je crois que la structure est déjà retenue, donc ce n'est pas qu'on les a abandonnés ou qu'on a détourné l'argent, c'est que moi je sais, la structure qui a été retenue a envoyé ces gens la semaine passée. Ils sont venus faire un état des lieux pour voir comment relancer encore les activités.
Rifin Bokelo invite le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour éviter des ruptures intempestives durant l'exécution du projet.
Nous avons toujours dit que si la lutte est extravertie, ça crée des problèmes. C'est un projet. L'État congolais doit vraiment prendre en charge ces projets-là.
Kisangani, Anselme Massoua, Radio Kapi.
L'invité. Maître Aimé Kilolo est notre invité. Il fut avocat principal de Jean-Pierre Bemba pendant 6 ans et il revient ce matin sur l'audience d'hier à la Haye dans la seconde affaire de subornation des témoins. Il s'entretient avec Pele Kipelamondo.
Maître Aimé Kilolo, bonjour.
Bonjour.
C'est mercredi 4 juillet, donc on attendait la décision de la Cour dans la seconde affaire qui concerne Jean-Pierre Bemba, à savoir l'affaire des subornations des témoins dans laquelle la Cour avait requis 1 an de prison. Qu'il faut-il retenir de l'audience de ce 4 juillet?
Bien, il faut d'abord rappeler que l'affaire Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale comprend 2 volets tout à fait distincts. Le premier volet, c'est celui qui concerne le dossier principal, l'affaire des allégations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis sur le territoire de la République centrafricaine. Dans ce dossier, Jean-Pierre Bemba a été acquitté, il a été blanchi. Ce dossier est définitivement clos. Le deuxième dossier concerne l'affaire de subornation de témoins, c'est cette fameuse affaire dite de corruption de témoins. Dans ce dossier, nous avions toujours plaidé non coupable en expliquant que le bureau du procureur lui-même systématiquement remettait des moyens financiers importants entre les mains de ces témoins pour leur permettre de se déplacer, de se loger et de se nourrir, et qu'il était normal que la défense fasse de même, d'autant plus que les montants qui étaient remis aux témoins dans ce dossier étaient considérablement beaucoup moins importants que ceux que le procureur remettait à ses propres témoins. Les juges n'ont pas entendu les choses de cette oreille et ont décidé de prononcer un jugement de culpabilité dans ce dossier de corruption de témoins. L'audience d'aujourd'hui consistait tout simplement à permettre aux avocats de présenter leurs moyens de défense, mais aussi permettre au bureau du procureur d'exposer son réquisitoire en vue, finalement, de réunir pour les juges les éléments nécessaires qui leur permettront de déterminer le taux de la peine, que ce soit une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement.
Quand est-ce que cette décision va intervenir pour la seconde affaire? Et en attendant, qu'est-ce qui va se passer?
En attendant, la situation reste identique. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba et tous les co-accusés font l'objet déjà d'un jugement pour corruption de témoins, c'est-à-dire subornation de témoins. C'est une décision définitive qui est rendue. Il suffit simplement aujourd'hui de déterminer quelle va être la peine. D'après les textes, les juges ont la possibilité d'infliger une amende qui peut aller jusqu'à la moitié de la fortune d'un accusé. Il peut aussi infliger une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Mais il est très difficile à ce stade d'en dire davantage. Seuls les juges, au moment venu, feront connaître leur décision.
Et en attendant, sur le plan politique ou sur le plan individuel, Bemba fait quoi? Il reste en liberté provisoire et il peut se mouvoir ou se comment?
Il faut dire deux choses. D'un point de vue des droits et libertés individuelles, c'est-à-dire le droit de pouvoir circuler librement, de venir éventuellement à Kinshasa, eh bien, il a cette possibilité. Dès qu'il le décide de se rendre à Kinshasa, il peut, par exemple, décider de venir pour mener des activités politiques ou autres sur le territoire de la République démocratique du Congo. En tout cas, il n'y aurait aucune entrave du point de vue de la restriction de ses droits et libertés. Par contre, du point de vue de la problématique politique en termes d'éligibilité, il faut dire qu'il n'a pas été déchu de l'exercice de ses droits politiques par la Cour pénale internationale. Le seul débat en droit interne congolais qui se pose, c'est celui qui porte sur l'interprétation que les uns et les autres pourraient faire de l'article 10 de la loi électorale qui stipule que une personne pourrait être reconnue inéligible en cas de condamnation pour corruption, pour viol, pour détournement de deniers publics. Mais encore faut-il savoir que tout ceci est du ressort d'abord de la CENI, qui a l'obligation d'enregistrer toutes les candidatures qui lui sont présentées. En un deuxième temps, la CENI doit faire un examen de recevabilité des candidatures. Si elle décide de constater qu'une candidature est irrécevable pour motif d'exclusion légale à l'éligibilité, à ce moment-là, il appartient aux différents candidats de se pourvoir devant les cours et tribunaux qui seuls pourront décider pour savoir si telle ou telle personne est éligible ou pas au regard des textes en vigueur. Pour l'heure, je pense qu'il ne faudrait pas spéculer davantage à ce sujet.
Maître Aimé Kilolo, je vous remercie.
Je vous en prie.
Désiré Kanyama, bonjour.
Bonjour Belinda et bonjour à tous les auditeurs des Radio Okapi. Le soft international s'interroge à la une, sonné par les grands. Le journal fait allusion au destin de Jean-Pierre Bemba, qu'il qualifie d'incroyable. 10 ans d'enfermement à la haie, quand nul n'imaginait que celui qui fut vice-président de la République en sortirait un jour, ni vivant après autant d'actes d'accusation mis à sa charge, écrit le soft international. Et de conclure, voilà qu'un vendredi 8 juin 2018, le miracle vint. Non seulement il est libéré, mais aussi et surtout, il est acquitté aux grandes dames de la procureure générale gambienne. RDC Mouzito contre-attaque, s'exclame à la une la prospérité. Voulant user de son passage infructueux à la primature, écrit le quotidien de Montfleury, messieurs proclame toute honte et but la mort politique de son mentor. Quelle immodestie! S'interroge la prospérité. Il veut la présidence de la République tout en crachant sur ceux qui l'ont fabriqué, écrit le quotidien de Montfleury. Enfin, il s'interroge au fait si au bout de compte, il n'avait pas de temps de ressasser l'histoire récente de sa montée aux affaires. Et pourtant, reprécise la prospérité, les chiffres sont têtus. Et en conclusion, les archives existent. Candidature au provincial, faible affluence au BRTC, majorité et opposition CEPI. C'est le titre à la une du journal Le Potentiel. À trois jours de la date de clôture des réceptions des candidatures aux législatives provinciales, on enregistre une faible affluence au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC ouvert par la CENI, note Le Potentiel. Dans la majorité au pouvoir, tout comme dans l'opposition, personne ne semble s'empresser. L'on CEPI. Chacun s'attendant à ce que l'autre fasse le premier pas, renchérit Le Potentiel. Et pourtant, écrit actualité.cd à la une, la CENI est formelle. Le dépôt des candidatures pour la députation provinciale s'arrête le 8 juillet. Ce média en ligne rappelle que la CENI ne prolongera pas la période dédiée à la réception des candidatures pour les législatives provinciales. Ainsi dit, Le Potentiel revient à la charge en précisant que cette date n'est pas négociable. Avec la prestation de serment des 9 juges, la Cour constitutionnelle affiche complet titre à la une l'avenir. Et ce, conformément à l'article 158 alinéa 1 de la Constitution, selon lequel la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 à sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, fait savoir l'avenir.
Kadish Mukolo Chamboui, bonjour.
Bonjour Belinda Bossoma, bonjour à mes sportifs. Tour cycliste international de la République démocratique du Congo entame donc son dernier virage avec la 6e et avant-dernière étape entre Kikwit et Massimanimba dans la province du Kwilu. Le départ sera donné tout à l'heure devant le bâtiment de la mairie. Comment se présente cet itinéraire? Enoch Matondo qui est sur la route du Tour nous en parle.
Étalé sur 180 km avec moins de virages dangereux de part en part, la voie est très bien asphaltée. Mais cet itinéraire comporte autre particularité, ces montagnes, prêtes à couper le souffle aux cyclistes. Au total, 13 montées que nous avons recensées, et pas les moindres. À 12 km déjà après la sortie de Kikwit, près du quartier Petit Kassai, se dresse une première montée. Les autres se succèdent entre 5 km. Ce parcours, l'un des plus longs du Tour, donnera certainement aux 136 prétendants l'occasion de s'affirmer davantage. Au moins sur les 80% de cet itinéraire sont longés les villages, en dehors de quelques savanes et buissons. Les riverains constitueront sans nul doute un aspect d'encouragement aux cyclistes. Les deux seuls ravins du tronçon ne ralentiront peut-être pas l'allure des cyclistes, puisqu'ils sont visibles qu'après seulement la moitié du tronçon. De Kikwit, Enoch Matondo pour Okapi Sport.
Football à présent, l'AS Vita Club de Kinshasa a pris provisoirement la tête du classement du championnat national de football, Vodacom League 1, avec 50 points goal différence plus 42, 20 matchs livrés. Cela après sa victoire de 3-0 sur Don Bosco de Lubumbashi hier après-midi au stade des Martyrs. Jean-Marc Makoussou a réussi 3 buts de 20 clubs à la 29e, 31e et 81e minute, ce qui lui permet de devenir jusque-là le meilleur buteur avec 23 réalisations. Dans l'autre rencontre du jour, DCMP s'est imposé face à Sa Majesté Sangabalen de Dumbu Jumaï. Ricky Tulengi a marqué à la 16e et Chibamba à la 61e minute le début de Fenoir de Kinch de Zumakile de Kinshasa pour cette équipe où les deux équipes bien sûr s'est disputé la 3e place de ces championnats synonymes des qualifications pour la Coupe de la Confédération en 2019. Les deux équipes sont donc assurées de disputer la Coupe de la Confédération en attendant le classement final. Pour l'instant, le classement provisoire. On retrouve la Vita Club en tête avec 50 points, goal différence plus 42, 20 matchs livrés. Tupisa Mazembe de Lubumbashi vient en deuxième position, 50 points plus 31 et 21 matchs livrés. Sa Majesté Sangabalen de Dumbu Jumaï, 43 points goal différence plus 26, 20 matchs livrés. Darin Club Motema Pembe DCMP, 41 points goal différence plus 26, 19 matchs livrés. Coupe du monde de la Russie 2018, rendez-vous donc demain pour le quart des finales. L'Uruguay croise la France, le Brésil contre la Belgique. Ça sera les deux affiches de demain, vendredi. Voilà Belinda Bossoma, la toute première intervention pour ce matin.
On vous retrouve dans environ une heure. Merci Kanish pour ces nouvelles sportives. Avec vous, nous bouclons cette première édition du journal. Merci de l'avoir suivi.